Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Sylvain de Toc.
Bonjour Nathalie.
Je vous libère après ces quelques minutes. C'est un dernier entretien dans cette série où on a parlé et vous avez parlé de témoins, de martyrs, au fond de sainteté, de héros. On a parlé au fond de notre pays, de notre Église, notre Sainte Mère l'Église, qui a besoin peut-être de saints qui se lèvent, de saints qui se réveillent. Alors puisqu'on parle de sainteté, nous pourrions poursuivre, je dirais, un peu ces mystères que vous évoquiez hier, les mystères du rosaire, où ce chapelet, on égrène ces petites boules, on dit à notre Père, on dit je vous salue Marie, on dit le credo aussi, et on prie Marie. Hein. Alors, au fond, pourquoi prier Marie? Pourquoi méditer dans, je dirais, ce rosaire, méditer, je dirais, ces différents mystères de la vie de Jésus? Et nous reviendrons dans ces dernières minutes particulièrement sur ce mystère qui se vit au moment de la mort de Jésus et ce mystère aussi de sa résurrection. Alors pourquoi, pour ceux et celles qui vous écoutent maintenant, frère Sylvain de Toc, certains priaient le chapelet, ne prient plus le chapelet. Certains étaient proches de l'Immaculée Conception et ne le sont plus aujourd'hui. Certains ne prient plus Marie. Alors pourquoi prier Marie encore aujourd'hui dans un temps ou une époque troublée, en temps de difficulté, en temps de guerre, en temps de confusion? On vous écoute et merci.
Je crois qu'il faut, Nathalie, revenir aux sources. J'essayais d'en évoquer quelques-unes hier avec Saint Justin, Saint Irénée, le temps des martyrs au IIe siècle, où on a admiré en Marie une femme de foi, quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Et plus exactement, qu'est-ce que ça veut dire mettre sa confiance en Dieu? Ça veut dire écouter Dieu, écouter sa parole. C'est le grand idéal du peuple d'Israël, Shema Israël, écoute Israël. Voilà, ben un bon Israélite, une bonne Israélite comme l'a été la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui ouvre les oreilles de son cœur pour accueillir la parole de Dieu. Ben, vous voyez, Marie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a mise en pratique. Vous connaissez ce passage dans la vie publique de Jésus qui est un peu difficile à entendre quand on aime beaucoup la Sainte Vierge. On ne comprend pas au début ce que Jésus veut dire, où Marie vient chercher Jésus et on dit à Jésus, mais voilà ta mère qui te cherche. Et Jésus répond, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il désigne toutes les personnes qui sont là en train d'écouter sa prédication. Il dit, ben voilà ma mère et mes frères. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent, qui la mettent en pratique. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ça exclut Marie? Bien au contraire. Non, pas du tout. Bien au contraire. Marie, elle est par excellence celle qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a gardée dans son cœur. Saint Luc nous le dit à deux reprises. Elle gardait tout cela dans son cœur et qui l'a médité, qui a fait porter du fruit à cette parole. À l'ange Gabriel, à Nazareth, elle a donné son oui, son fiat, parce qu'elle a écouté « qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle a été cette femme qui accueille la parole de Dieu transmise par l'ange. Et non contente de l'avoir fait elle-même, écouter la parole de Dieu, la garder, la mettre en pratique, eh bien, elle a invité les autres à le faire. Et ça, on peut le voir en deux événements racontés dans l'Évangile. D'abord, les noces de Cana, où ce que Marie demande aux serviteurs de la noce, pour sauver la situation qui allait tourner court parce qu'il manquait de vin, rappelez-vous, eh bien, Marie dit aux serviteurs, écoutez Jésus et faites ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, nous dit le texte de l'Évangile. Donc non seulement Marie, elle a écouté la parole de Dieu, elle a écouté Jésus, en quelque sorte, mais en plus, elle invite maintenant les autres à faire comme elle. Et bien précisément, et c'est le deuxième événement, au pied de la croix, Marie est donnée par Jésus lui-même aux disciples que Jésus aimait pour maman. Il la prend, on l'identifie avec Saint Jean, ce disciple que Jésus aimait dans la tradition. Et on dit que Jean prend Marie immédiatement, dès cet instant-là, il l'a pris chez lui. Hein. Ça veut dire que Jean reçoit une maman adoptive et Marie reçoit un fils adoptif. Ça, c'est assez extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, il va se produire quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que Marie va avoir sur Jean, sans aucun doute, une influence extraordinaire.
Et ça, c'est l'influence, je dirais, d'une mère.
Oui, parce que ce qui va se passer, c'est que Jean, comme par hasard, celui qui a accueilli Marie sous son toit, juste après la mort de Jésus, eh bien, quelques heures après, quand il arrive dans le tombeau vide, il voit et il croit instantanément. Alors que les autres ont besoin de preuves, ont besoin de signes, ont besoin d'apparitions du ressuscité. Saint Thomas, l'apôtre, qui dit « Mais moi, si je ne vois pas Jésus ressuscité, si je ne mets pas mes doigts dans les plaies de ses mains, de ses pieds, ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Hein? Eh bien, Jésus va lui répondre tu crois maintenant parce que tu m'as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ben, cette béatitude du croyant, c'est par excellence celle de Jean qui lui a cru sans avoir vu, instantanément.
Hein? Est-ce que c'est au fond l'innocence de Jean?
Alors moi, je crois que c'est, en tout cas, c'est surtout la très bonne influence
de Marie,
de la Vierge Marie, parce que Marie, elle est par excellence celle qui croit sans avoir vu. Hein, à la visitation, la cousine de Marie, Élisabeth, lui avait dit « Heureuse celle qui a cru en ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. »
On peut dire que Marie est le personnage à la scène, je dirais, de ce mystère de la croix à la passion. Marie est le personnage clé, je dirais, pour l'avenir de l'humanité et de l'Église terrestre, hein, de l'agonie de son fils à la croix à ce moment de la résurrection.
Moi, je crois qu'elle est, oui, la tradition de l'Église la présente un peu comme une sorte de petite Église concentrée dans le cœur de Marie, une ecclésiole, hein, où continue de briller la lumière de la foi alors que les apôtres l'ont perdue, par exemple. Hein.
Tout s'éteint et Marie,
voilà,
a toujours
tout s'est
cette
éteint, les apôtres
lumière.
Pierre a renié Jésus,
puis ils ont peur.
Judas s'est pendu, les autres ont eu peur, ils sont partis, ils vivent dans la crainte. Et Marie a gardé cette lumière de la foi dans son cœur. La parole de Dieu dans son cœur ne s'est jamais éteinte. Elle n'a pas retiré sa confiance en cette parole. C'est comme la petite veilleuse, vous voyez, dans nos chaudières, là, hein, cette petite veilleuse qui très humblement persévère, jusqu'au jour où on ouvre les robinets, le gaz arrive, et là, c'est l'embrasement. Hein. Eh bien, Marie, avant la résurrection, avant la Pentecôte, elle est restée dans cette attitude des croyants. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande plus-value, la grande valeur ajoutée de la spiritualité mariale. Hein? Être marial, ça veut dire être dans cette disposition du cœur, cette disponibilité intérieure à la parole de Dieu que Marie a eue toute sa vie. Être capable d'accueillir, de garder cette parole.
Alors on peut parfois entendre chez certains une trop grande dévotion à Marie, voilà, pourrait aussi mettre un peu en péril notre relation avec le Christ. Alors, est-ce qu'on est en danger quand on prie le rosaire quotidiennement, quand on se met à l'école de Marie? Je vous pose la question avec un peu d'humour et de plaisanterie.
Moi, je vais vous répondre avec humour. Lisez mon petit livre « Petite théologie du rosaire » aux éditions de la Licorne, parce que précisément, c'est ça que j'essaye d'évoquer. C'est comment, en entrant dans l'intimité de Marie avec la récitation fervente et fidèle du rosaire, eh bien, on devient comme elle, poreux à la parole de Dieu. On devient capable d'accueillir cette parole, de l'entendre, de la méditer, de lui faire porter du fruit dans nos vies. Hein. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est, vous savez, le rosaire, c'est comme un percolateur, la machine à expresso, hein, de la parole de Dieu. Voilà, on a mis le grain, hein, de la parole de Dieu, comme le café, dans le percolateur, et on va extraire un café dense, serré, puissant. Hein. Alors cette image, elle m'est venue pour exprimer quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie de l'Église avec le rosaire. C'est ce qui est arrivé aux communautés chrétiennes du Japon, hein, qui ont été évangélisées à partir du XVIe siècle et qui tout à coup se sont retrouvées persécutées, alors des martyrs féroces, terribles. Et à partir du XVIIe siècle, il n'y avait plus de prêtres au Japon. Et 200 ans plus tard, on a envoyé à nouveau des prêtres à partir des missions étrangères de Paris. Et ils ont eu la surprise de découvrir que... eux, ils pensaient qu'ils allaient reprendre l'évangélisation à zéro, qu'il n'y avait plus rien 200 ans après. Hein. Eh bien non, ils ont découvert des communautés chrétiennes clandestines qui, pendant 200 ans, avaient gardé la flamme de la foi allumée dans leur cœur. Tenez-vous bien, sans prêtre, sans donc les sacrements de la vie ordinaire de l'Église, l'Eucharistie, la confession, l'onction des malades, etc. Hein. Sans Bible, sans images pieuses ou très peu, parce que si on trouvait ça dans leur maison, alors ils étaient mis à mort ou torturés. Hein. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont gardé la foi ? Eh bien, c'est qu'ils avaient appris le rosaire au XVIIe siècle. Et en récitant, jour après jour, année après année, et siècle après siècle, la simple prière du chapelet, ils avaient comme le percolateur de la parole de Dieu. Hein, tout était condensé, mais l'arôme... nourrissant, exaltant de la parole de Dieu, était contenu dans ces grands mystères de la foi et dans ces paroles toutes simples, Notre Père, le Je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, le Credo, tous ces mots tout simples qui condensent, hein, comme dans un bon café, encore une fois, notre foi et toute sa saveur.
Eh bien, je vous remercie, je crois que c'est une très très belle conclusion à la question que je posais avec un peu d'humour peut-être et de légèreté sur pourquoi prier au fond cette prière qui se répète hein, du Je vous salue Marie avec ce chapelet entre les mains, ces grains. Donc vous avez donné, je crois, un éclairage et la bonne lumière. Frère Sylvain de Toc, on peut conseiller donc cet ouvrage « Petite théologie du rosaire » paru en 2020 aux éditions La Licorne. Et puis, je conseille aussi celui-ci. Et je vous avais reçu il y a quelques mois pour « La gloire des bons à rien » aux éditions du Cerf. Merci infiniment de votre passage ici dans nos studios à Lourdes. Et à très
Merci,
bientôt.
Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.